une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Pendant plusieurs mois, des collectifs ou associations de femmes implantées dans différents quartiers populaires de Marseille se sont réunis pour échanger sur leurs pratiques. Ces rencontres ont été initiées par Camille Raca et Johanna Fidalgo pour la direction de la politique de la ville Métropole Marseille-Provence. Au cœur des échanges, les discriminations multiples et systémiques auxquelles les habitants et les habitantes de ces quartiers sont confrontés. Ces femmes luttent pour le droit au logement, à l'éducation, à la santé, au transport, ou pour faire entendre la voix des habitantes et des habitants dans les politiques de rénovation urbaine. Elles disposent souvent de peu de moyens, alors même qu'elles pallient aux carences de l'État. Leur détermination constitue la ressource principale sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Au fil des rencontres, nous avons fait connaissance et nous leur avons proposé de faire le portrait de leur association, de leur collectif. Une manière de rendre hommage au travail colossal qu'elles accomplissent. Épisode 1, l'amicale des locataires d'Herbel, entretien avec Rania Ougassi.
Habitants, habitantes d'Herbel, venez à la réunion bâtiment 37. Il y a une réunion sur les démolitions dans Herbel. Les personnes vont voir leur bâtiment démoli, vous allez être relogés. Venez si vous voulez avoir vos intérêts, vos droits défendus. Venez, réunion devant la PMI sur la pelouse au premier rond-point d'Herbel. Habitants du bâtiment 32, habitants d'Herbel.
Il se peut que tout ce que je fais, demain j'arrête, tout va s'écrouler. Mais au moins c'est comme le colibri, j'aurais fait ma part. Et ça, ben, ça m'aide à affronter le demain. Moi j'en ai besoin physiquement et personnellement. Le quartier d'Herbel, c'est une cité qui a été construite à la fin des années 60. Au début, c'était une résidence qui était affectée au CRS. Aujourd'hui, ils viennent, mais pas pour les mêmes raisons. Et ensuite, ils sont partis. Ensuite, ça a été cédé sur le parc social. Elle compte 1200 logements pour environ 6000 habitants, gérés par 3 bailleurs, Unicil, Logir et Merilia. C'est un quartier populaire dans le 11e arrondissement de Marseille, classé quartier prioritaire de la ville. C'est une cité qui s'étend sur 25 hectares, qui va bénéficier d'un plan de rénovation urbaine dans les 10 prochaines années, voire plus. Il y a 72 bâtiments, dont 4 tours. C'est des bâtiments à taille humaine, à part les 4 tours. Il y a beaucoup de verdure et ça peut être un super endroit si c'est bien entretenu, bien géré. Il y a quasiment 40 nationalités, origines, ethnies dans Herbel. Ce qui nous lie, c'est qu'on a les mêmes galères. Et du coup, on se reconnaît. On se reconnaît, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on parle deux langues différentes qu'on est différent. On se comprend. On se comprend. Entre étrangers, on se comprend. Je m'appelle Rania Ougassi. Je suis locataire à Herbel depuis 2006. Je suis médiatrice coordinatrice au sein de l'Amicale des locataires d'Herbel. C'est une association qui a été créée en 1994-1995 à l'initiative d'habitants pour défendre leurs droits, être un contre-pouvoir, leur permettre d'avoir des réponses, d'être un peu écoutés au niveau des bailleurs et de ce qui se passait sur le quartier au niveau de la gestion. Ça regroupait quelques habitants, alors pas beaucoup, hein, 30-40, pas plus. Ils ont eu quelques victoires, hein. ils ont réussi à se faire entendre. L'ancien président avait épinglé les bailleurs parce qu'ils prélevaient des charges qu'ils ne devaient pas prélever. Ils avaient essayé de les raisonner à l'amiable, ça n'a pas marché. Donc ils ont intenté un procès qu'ils ont gagné en première instance, en appel et en cassation. Je faisais partie des plaignants, on était 34 à l'époque et on a eu entre 5 000 et 7 500 euros de dommages et intérêts par plaignant. Il ne voulait pas lâcher l'argent. Et l'avocate, elle a pris un huissier qui a bloqué les comptes de tout Unicil au débit au crédit. C'est-à-dire que tous les comptables de tout Unicil, 30 000 logements, ils ne pouvaient ni encaisser les loyers, ni payer les fournisseurs, les prestataires, rien, bloquer tout. Et ben, ils nous ont dépêché un coursier qui est venu en cavalant chez l'avocate en disant « Tenez, votre chèque, juste débloquez-nous les comptes ». Ensuite, M. Guillaume a dû partir et on m'a demandé de prendre le relais.
Bonjour.
Ah oui, oui, oui. Oui, laissez-moi aller. Oui, oui, je vais le scanner. Ça va. Il n'y a pas de souci. Ça n'a pas changé. Votre fils, il est parti ? Oui, toujours là.
Non, il est parti.
Il est parti avec sa femme, avec sa copine ?
Oui, avec sa copine.
Donc vous êtes seul. Au 1er janvier, vous êtes seul.
Pardon ?
Au 1er janvier, vous êtes seul.
Ouais.
Ça va. OK. Mmh. Ça va, pas de problème.
Et ça, c'est...
Les impôts qui vont avec.
Oui, les impôts.
Il n'y a pas de problème. C'est la photocopie ?
Ouais.
Ça va. OK. Merci. De rien. L'expérience du terrain a montré qu'il y avait beaucoup, beaucoup de besoins qui étaient communs vraiment à beaucoup, beaucoup de monde. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mutualise pas pour essayer de répondre à la demande ? Donc, ça a commencé par des cafés-débats. Au lieu de répéter à chaque fois la même chose à 10 familles, ben, je regroupais les 10 familles autour d'un café et puis on discutait. C'était beaucoup plus efficace et plus convivial. Après, ça a été de l'affichage. Alors, j'ai été aidée, hein, je n'étais pas seule, hein, je ne suis pas Wonder Woman. J'ai été aidée par des gens formidables qui m'ont aidée pour une journée ou pour un an, pour quelques heures ou quelques jours, ou même des fois juste un encouragement, un sourire. On a vachement étoffé notre fichier d'adhérents par rapport à quand j'ai pris l'assaut. Là, on va sur les 300 familles quand même. Hein. On est parti sur 40.
Alors, il y a combien de familles ici ?
1200.
1200 familles.
Un coprocès, on a réuni 350 familles sur le quartier. Je ne suis pas la seule à faire ça. Il y a une autre association qui est peut-être un peu plus récente et qui se bat aussi à sa manière pour les droits des habitants. On s'est réunis lors d'un événement tragique. C'est la mort d'un habitant suite à une contamination à la légionelle. Et en fait, ce monsieur qui est décédé, il s'avère que c'est le frère de la dame qui tient l'association, la deuxième association. Quand son frère est décédé, ben, je suis allée, par solidarité, lui présenter mes condoléances. Et c'est la première fois qu'on a échangé avec Madame Awash. Et depuis, ben, on bosse... Alors, on est deux entités différentes, mais on bosse sur des problématiques communes. Par exemple, sur l'eau, sur le chauffage, sur les charges, les parties communes. Elle est plus sur le bailleur Logirem. Moi, je suis plus sur le bailleur Unicil. Mais en fait, on considère que Herbel, c'est un seul et même ensemble. Et on n'a pas la vision des bailleurs qui segmentent par bailleur.
Oui, parce qu'il y a plusieurs bailleurs ici.
Oui,
hein.
Y a trois bailleurs. Alors, Unicil gère 600 logements. Logirem en gère 300. Et Irilia en gère 300, en gros. Hein. Alors, la difficulté, c'est qu'ils ont chacun leur mode de gestion. Et du coup, bah, ça crée un peu la zizanie. Ça crée la zizanie parce que selon à qui on s'adresse, la gestion n'est pas la même. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les habitants soient respectés, que le droit soit respecté, que les conditions de vie soient dignes. Et on en est loin, quoi. Enfin, c'est pas, on n'y est pas. Le compte n'est pas bon. Parce que les charges, on en paye, et pas qu'un peu. Il y a des gens qui payent autant de charges que de loyers.
Quand il pleut, il y a de l'eau qui coule sur le mur. Je prends une couette spéciale avec mon fils avant qu'elle était petite. On met ça comme au bled, on fait comme ça. Il prend, tient et on prend jusqu'à dehors. On fait comme ça.
Oui,
on fait
comme
ça.
Ouais.
Ça fait des années que j'ai fait ça au 23. Il m'a mis au 21. C'est pareil. Et après, j'ai dit, premièrement, je ne veux pas rester ici à Herbelle. Je veux retourner au Capalu. Pourquoi vous ne m'envoyez pas là-bas où je vais? Au moins, vous me donnez au rez-de-chaussée, je suis malade. Mais vous m'aimez au quatrième étage avec la médité.
Et quand tu as automis au 21, l'appartement, il a été refait ou pas?
Ils n'ont rien fait, c'est moi qui a refait.
Est-ce que sur l'état des lieux,
c'était marqué?
Il y a marqué tous ces problèmes dans l'appartement.
Ils ont marqué tous les problèmes.
Parce tu peux que, le trouver,
vous
l'état
l'avez
des lieux,
vu, tu l'état des lieux?
Je vais les chercher.
En fait, si vous êtes rentré dans l'appartement, mais qu'il y avait des défauts, qu'il y avait des problèmes d'humidité, et que vous avez signé quand même l'état de lieu, il faut savoir ce qu'eux, ils ont mis dans l'état de lieu. Parce que si eux, ils ont mis dans l'état de lieu que tout va bien dans l'appartement...
Regarde, l'état de lieu, quand je le fais avec eux, il a dit, tu rentres parce que c'est d'urgence. On va envoyer les gens pour faire le
voilà,
truc.
Voilà.
Après, ils ont pavé, voilà.
Amener l'état de lieu. L'état de lieu. Il y a comme ça qu'on va pouvoir comprendre un peu la situation de l'appartement.
Et quand on se balade à Herbelle, voilà, ça parle tout seul, quoi. L'état de l'entretien des espaces verts, le cantonnage, les tuyaux qui pètent, le bâti qui part en ruine, l'humidité, les champignons, la légionelle, les équipements qui sont d'origine. Herbel, ça date de 68-70. Donc un demi-siècle, il y en a, ils ont toujours les mêmes baignoires. C'est qu'on pense que les gens d'Herbel ont un seuil de tolérance supérieur à la moyenne nationale, au froid, à la saleté, au bruit, à l'insécurité. Pourquoi est-ce que moi, mes enfants, ils n'ont pas le droit de grandir dans un milieu sain et sécurisé ? Enfin, on dirait que je demande la lune, alors que quelqu'un d'autre qui le demanderait ailleurs, ça serait complètement recevable. Je veux bien croire que dans Herbel, ce n'est pas tous des enfants de cœur. Mais d'abord, c'est une minorité, parce que la majorité, elle est silencieuse. Et je m'y ferai jamais qu'on me dise « Oui, mais de toute façon, c'est Herbel, et puis prenez-vous-en à la minorité qui met le Bronx. » Non, 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 non. Je paye mon loyer, j'ai signé un contrat. Et ce contrat, ben, il y a des devoirs pour chacun, il y a des obligations pour chacun, il y a des droits pour chacun. Il y a des gens qui ont mis un paquet de fric pour retaper leur maison. Ils ont tout refait à leurs frais. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est propre, c'est beau, c'est bien décoré. Parce que à force de demander qu'on refasse le lavabo, qu'on refasse la baignoire ou que voilà, on refasse les sols, ils se sont vus opposer non, non, non. Ben, les gens vivent pas dans des porcheries. Voilà. Ils se prennent en main et puis ils refont à leurs frais. Ce qui n'est pas normal. Pour certaines choses, il y a de l'entretien. Ok, c'est aux frais du locataire, mais il y a des équipements qui sont aux frais du propriétaire. Et où on dit non, non, non aux gens, il n'y a pas suffisamment de budget, non, bah, demandez l'année prochaine, non, c'est en bon état d'usage. C'est tout rouillé, c'est tout pourri, c'est tout sale, mais comme ce n'est pas cassé, bah, c'est en bon état d'usage. C'est la phrase magique. C'est en bon état d'usage. Ouais, ben moi j'aimerais bien que savoir s'ils vivent avec un lino qui est en patchwork chez eux, parce que voilà, au fil des années, ils ont changé que les dalles qui n'allaient pas, et on leur dit, bah, non, non, mais vous restez comme ça, parce que c'est en bon état d'usage. Voilà, avec des pites de rouille sur le l'évier, on leur dit, bah, le robinet marche, c'est en bon état d'usage. Ils jouent avec les mots, tout ce qu'ils peuvent ne pas faire, ils ne le font pas. Ils ont les gens à l'usure, et les gens après, ils en ont marre. Donc soit ils abandonnent, soit ils le font à leurs frais. Et ça, il y en a plein, plein, plein comme ça. Moi, j'ai dû me battre pour qu'on me refasse, quand je suis arrivée, la baignoire, qui était pourrie et qu'on voulait me faire garder. Je dis, moi, il est hors de question que je lave mes enfants là-dedans. J'avais du crépi. Le gars avait fait du crépi sur tout l'appartement. On se râpait les bras en rasant les murs. Il a fallu tout décaper nous-mêmes. Ouais. Mon mari a mis... 5 jours avec 3 gars pour tout enlever au burin, lisser les murs et tout. Voilà. Les sols avec des traces de cigarettes. Non, non, c'est en bon état d'usage. Les dalles ne sont pas cassées. Vous les gardez. Ou bien c'est... Oui, oui, mais ça, signé, signé, on va vous le faire après. Ça aussi. Ça, je l'entends beaucoup. On m'a dit de signer, on m'a dit qu'on me le referait après. On n'est jamais venu. Et ça fait 15 ans que je suis là. C'est pour ça que l'une de nos demandes a été d'assister les gens à l'entrée des lieux. Mais ils ne le disent pas aux nouveaux arrivants qui peuvent se faire assister. Ça ne les arrange pas qu'on mette notre nez dans leurs affaires, quoi, clairement. C'est quand même fou que l'habitant, qui est quand même la base, c'est lui qui est au centre, et ben en fait, c'est le dernier considéré. Ils ont une vision de gestionnaire. Ils calculent la rentabilité, mais l'humain, c'est le dernier paramètre qui est pris en compte. Et ça va aller de pire en pire, parce qu'aujourd'hui, ils parlent de réduire le personnel sur site. Moi, je veux bien que tout soit informatisé, tout soit par télétransmission, par visio, par ce que vous voulez, mais il faut que ça marche sur le terrain. Mais on est loin de ça. Après, ils se demandent pourquoi les gens ils pètent un plomb, ils vont au bureau des gestionnaires et qu'ils poussent une gueulante ou qu'ils sont menaçants. Après, ah ben non, les gens à Herbel, c'est des sauvages, on se fait agresser, on exerce notre droit de retrait. Ne les traite pas comme des sauvages, ils ne seront pas des sauvages. Voilà. Depuis qu'il y a eu le décès de ce locataire par rapport à la légionnelle, vraiment, ça a été un séisme. Là, les gens se sont inquiétés en disant, ben là, quand même, on touche à notre intégrité physique, on a des enfants, il y a des personnes âgées, des gens qu'on aime. Là, ils ont franchi la ligne jaune. Qu'on ait froid, on n'ait rien dit. Que ce soit pourri, on n'ait rien dit. Que les charges soient exorbitantes, on n'a rien dit. Mais là, on est potentiellement mis en danger de mort. Là, non, stop. On a fait appel à un collectif, le syndicat des quartiers populaires, dans Karima Berich et Mohamed Ben Saada, et feu Monsieur Sid Ahmed, qui nous a quittés. Je lui rends hommage parce qu'il a vraiment œuvré au combat. On a monopolisé ces gens-là, qui avaient des réseaux. On a attiré l'attention des médias. On a trouvé une excellente avocate, Soraya Slimani, qui a fait un travail formidable, qui a saisi la justice. Moi, déjà, à l'époque, j'avais fait un courrier au procureur de la République en disant, voilà, il y a eu un décès, dû très probablement à la légionellose, et on n'a pas de réponse des bailleurs. Donc, nous, aujourd'hui, on n'accuse personne, mais on veut savoir ce qui coule dans nos tuyaux. Donc, vous, en tant que garant des droits, ben, on vous saisit pour mettre la lumière sur ce qui se passe dans ce quartier. Parce que quand on s'adressait à d'autres, c'était « Ah, ben c'est un site privé, les tuyaux appartiennent au syndic. » Ouais, les tuyaux, mais pas moi. Moi, je n'appartiens pas au syndic. Donc, je suis une administrée, je suis une citoyenne et j'ai droit à être protégée comme tout autre citoyen. Il ne faut pas me renvoyer à ben, « Vous vivez sous le joug de Unicil ou de l'OGIREM. » Voilà. C'est limite ça, on n'a pas la main parce que la gestion des tuyaux, c'est l'OGIREM et Unicil. Ouais, mais la gestion des gens, c'est le maire, c'est la ville, c'est l'État, c'est pas Unicil. Parce que sinon, on est mal barré. Il a fallu mettre les médias sur le coup, mettre la justice sur le coup. On a saisi l'ARS, l'État, qui a mis en place...
L'ARS, donc l'Agence régionale
de santé, qui a mis en place, avec la préfète à l'égalité des chances, qui a mis en place des commissions où étaient réunies jusqu'à 40 personnes. La ville, l'État, les bailleurs, la métropole, toutes les parties prenantes de ce scandale sanitaire. Et là, on a mis au grand jour ce qui se passait sur Arabelle. Et là, ils se sont sentis mal. Et on a eu une écoute. On a été reçus régulièrement, tous les 2-3 mois. C'est nous qui fixions l'ordre du jour. Et les gens venaient et ils répondaient aux questions. Et ils avaient intérêt. Et ils étaient très, très mal. Ben oui, ben à un moment, ça se paye, quoi. Ça se paye. Enfin, l'impunité, elle ne peut pas être éternelle. Moi, j'ai le souvenir, quand j'ai fait le contrôle des charges, il y a plusieurs années, où je ne savais pas qu'il y avait la légionnelle. Ma trésorière, qui habitait au 4e étage, elle me dit « Mais tu sais, ils sont venus faire des prélèvements chez moi. Mais je ne sais pas ce que c'est. » Je dis ben, « On va poser la question quand on ira au siège pour faire le contrôle des charges. » On a le chargé de patrimoine et on lui dit « Au fait, vous êtes venus faire des prélèvements. Donc, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe ?» Et il me répond « Mais alors là, ces mots, ils vont résonner, mais pendant des années encore, en me regardant dans les yeux. Et ça, alors franchement, je ne serais pas fière. Je ne serais pas fière, parce que je ne sais pas comment il peut se regarder dans une glace. Et il me dit, mais non, vous pensez bien, 1200 logements, mais il n'y a pas de problème. C'est juste de la maintenance, c'est juste du contrôle. Et le mec savait très bien qu'on était cafis de légionellose. Je le sais, parce que quand il y a eu le procès, j'ai eu des documents. Des dossiers de 600 pages, 400 pages que j'ai épluchés des nuits entières. Et j'ai vu les dates et j'ai vu les résultats d'analyse. Et c'était exactement au moment où j'interrogeais le bailleur. Et où il me disait dans les yeux, tout va bien, dormez tranquille. Et ça, c'est juste criminel. Et ça, je ne pardonnerai pas. C'est laissons-les crever en silence. Qu'on ait de la légionellose, qu'on ait du plomb, qu'on ait de l'amiante, ça a été construit il y a des années. Je peux l'entendre. Mais bon sang, on n'est pas des animaux. Informez-nous. Dites-nous, bon, attention, prenez vos précautions. Si vous avez des symptômes, ben, parlez à votre médecin. Dites que ça peut être ça pour qu'il vous fasse les analyses adéquates. Rien. Rien. Quand je suis tombée sur le rapport, je l'ai lu. Et je vois qu'il y a mon bâtiment qui est signalé. Positif. Et je vois l'appartement numéro... Je me lève la nuit. J'ouvre mes placards et tout. Et je regarde mon bail pour voir si le numéro de logement correspond au mien. En fait, non. Le lendemain, je tambourine à toutes les portes de mon immeuble et je lui dis, dites-moi qui a le numéro, l'appartement numéro un tel. Et en fait, c'était ma voisine, une dame. Je dis, mais tu sais que toi, tu avais un taux bien chargé dans ton appartement. Parce qu'on te l'a dit. Elle me dit, mais jamais de la vie. Elle me dit, ah, mais c'est pour ça que j'étais malade et tout. Je t'appelle à chaque fois en arrêt maladie et tout. Mais c'est trop tard, elle ne peut plus le prouver. Elle ne peut plus le prouver. Moi, mon mari, il a eu des gros problèmes pulmonaires avant que je vienne ici. Donc, il a un terrain fragile. Et ben il s'est chopé des bonnes... Parce que je pensais que c'était des grippes. Hein. Mais en fait, je ne le saurais jamais si ce n'était pas ça. Parce qu'il y a une forme qui n'est pas mortelle de la légionellose qui s'appelle la fièvre de Pontiac et qui a des symptômes de fièvre courbatures, tout ça, ben, il a peut-être eu ça et je le saurais jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a caché sciemment. On nous mettait du chlore régulièrement les vendredis. On nous mettait la dose parce que le lendemain, le bureau de gestion est fermé et c'est le week-end. Donc on ne peut pas aller réclamer. Si on se trompait et on ouvrait le robinet d'eau chaude pour se brosser les dents, on avait la langue qui picotait pendant des heures et l'eau sortait noire. Un jour, j'avais mis une pièce de viande dans ma cocotte et j'avais mis de l'eau à chauffer. Et donc j'allume mon eau chaude de robinet, je mets ma bouilloire. Ma pièce de viande commence à vin. Je mets mon eau, sans faire gaffe, hein, parce que j'avais mis les épices et tout. Et je ferme ma cocotte. Et je sens que ça pue. Ça pue, ça sent pas normal. Puis je dis, mais c'est la viande qui a varié, c'est quoi ? Et en fait, quand j'ai pris mon eau, elle était marron. J'étais à deux doigts d'intoxiquer ma famille. Le lendemain, je fais une lettre carabinée au bailleur en disant, mais c'est quoi ça ? Vous nous dites ce que c'est. Et pareil, ils répondent, non, mais c'est de la maintenance. On a fait des réunions publiques, on a essayé d'alerter, on a essayé de faire de l'affichage. Après, vous savez, il y a des gens, ils bossent, il y a des gens, ils n'y ont pas cru. On a réussi à quand même mobiliser 350 familles qui ont dit, non, nous, on s'en fout pas. Pas mal de personnes sont venues nous voir en disant, on veut en être, moi, je ne savais pas, qu'est-ce qui se passe Mais ce travail, c'est nous, citoyens, qui avons dû le faire, alors que c'était eux à alerter et ils ont un devoir d'information. C'est ça, moi, ce qui passe pas. C'est qu'on nous a pris pour des moins que rien. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Et aujourd'hui, quand j'ai ce discours, « Mais non, mais pourquoi vous dites ça ? Mais c'est pas vrai ?» Je sais pas, alors donnez-moi une explication. Pourquoi vous êtes tués ? Vous étiez obligatoirement au courant. Vous aviez des sociétés qui étaient chargées de la maintenance qui vous refourguaient des rapports annuels qui vous disaient attention. Pendant des années. Et vous avez dit, ouais, ben oui, on va voir, attendez, mais ça coûte des sous, mais attendez, on va voir si la mairie peut pas participer. Ah, mais attendez, il y a un PRE qui arrive. Oui, mais on sait, on va s'en occuper. Mais attendez, on va chlorer. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a saisi la justice pour avoir juste un audit sanitaire. On a eu gain de cause dans le sens où la juge a répondu à toutes les demandes de notre avocate. Elle n'a pas changé une virgule. Il y a eu un jugement qui est sorti en disant « Ok, la demande est recevable, une expertise, un expert va être mandaté. » Sauf que ce cher expert a dit « Moi, je ne commence pas si je n'ai pas mes ronds. » Alors qu'il allait se faire payer par l'aide juridictionnelle. Hein. Il a dit « Moi, il me faut de l'argent pour commencer. » Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant tout l'été ? On fait un crowdfunding auprès des habitants en disant « Faites l'avance pour lui donner un acompte. » On arrive à récolter 7000 euros. On lui envoie le chèque et monsieur commence son expertise en octobre. Sauf que de juin à octobre, ben les bailleurs, ils s'étaient activés pour tout changer, ranger, nettoyer, changer les tuyaux et tout, pour cacher tout ce qu'ils pouvaient cacher. Sauf que les peu de tuyaux qu'on a réussi à récupérer... Mais c'était immonde. Vous avez le tuyau, le diamètre, il est comme ça. Et en fait, il y a un tel dépôt autour que l'orifice, il est comme ça. C'est tout petit qui a rétréci parce qu'il y a un dépôt de biofilm, de calcaire, de ferraille, de rouille, de ce que vous voulez. Quoi. Et quand ils mettent de la javel, du chlore, en fait, pour tuer la bactérie, et ben, ça décape tout. Et en fait, ça vient dans vos tuyaux, vous lavez, vous buvez, vous voilà. Juste après qu'ils aient dit avoir changé tous les tuyaux, les résultats étaient encore positifs. Et pas qu'un peu, avec des taux importants. Donc on a dit, il se passe quoi ? Savoir, à l'été 2018 ou 2019, je ne sais plus, l'État faisait une injonction aux bailleurs de mettre des filtres à tous les logements, des filtres anti-légionnels. Mmh. Alors ça a été une catastrophe parce que ces filtres étaient inadaptés, ils ne marchaient pas, ils sautaient dans la gueule des gens, vous n'arriviez plus à prendre une douche. Puis ils disaient, écoutez, si vous n'arrivez pas, enlevez-les et prenez au jet comme ça. Voilà, vous vous enlevez tout et puis vos tuyaux, vous prenez votre douche au tuyau. Bah oui, Herbel, les gens d'Herbel peuvent prendre la douche au tuyau. En plus, c'était des filtres qui faisaient en sorte que vous vous ébouillantiez. C'était la douche écossaise. Ça freinait l'eau chaude, après d'un coup vous aviez l'eau froide, après d'un coup vous brûliez. Enfin, les gens, ils craquaient. Et il fallait les changer régulièrement. C'était juste infernal. On nous a servi de l'eau contaminée. Et le juge après dira qui a été responsable et sanctionnera. Voilà. Et puis c'est un procès, c'est une première. Parce que notre avocate, elle reçoit des coups de fil de Paris, d'ailleurs, des quartiers nord. Et en fait, je pense qu'on va ouvrir la voie, et c'est le but aussi, à d'autres quartiers, pour qu'ils prennent conscience que c'est possible de se faire entendre, de se faire respecter. Et c'est vraiment un procès qui est très symbolique. Pour dire, des habitants, des précaires, des étrangers, ont donné une leçon aux bailleurs en leur expliquant qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est un formidable espoir pour les autres en disant, c'est possible, si eux sont arrivés à le faire, nous aussi. C'est une victoire qui dira, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec nous. Aujourd'hui, je vais parler trivialement, les Noirs et les Arabes se sont réveillés et ils n'acceptent plus certaines choses. Voilà.
N'ayez pas peur, c'est nous aujourd'hui qu'on est les rois, c'est notre quartier, c'est nous qu'on y habite et c'est nous qu'on défend notre quartier. C'est pas eux, ils sont là juste pour gagner un salaire et pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Nous on ne veut plus ça, on veut que c'est du petit concret.
Leur truc, c'est diviser pour mieux régner. Donc si on ne parle pas entre nous et qu'on ne se tient pas au courant, ils sont contents, ça les arrange. Ils peuvent dire un truc à quelqu'un et un autre truc à quelqu'un d'autre. Et ce qui les embête, c'est quand on discute entre nous. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut apporter un témoignage ou dire quelque chose, le micro est à vous. Il n'y a pas de souci.
Des mots qui giflent, des mots qui blessent et freinent ton élan. Te renvoient à ta place et te rappellent que tu n'es rien. Un être inférieur à dompter fermement. Rabaisser constamment, faire de toi un perdant. Paraît qu'on en fait des tonnes, qu'on devrait s'excuser de s'être opposé à leur discours décomplexé. Rien n'est convenable, tout est à bannir quand ils nous salissent sur la place publique. Parle-moi dans les yeux, épargne-moi le faux semblant. Pareil que tu cherches une gagneuse, j'espère que t'es bon perdant. Apparemment c'est le costard et la Rolex qui font le bonhomme. Y'a pas plus pauvre que de faire le snob, tu m'imposes pas tes summums. Change de ton, range ta leçon et tous tes slogans de l'air tape. Écorche même pas le nom du daron où je te fais danser au bal trap. Flèche, poison dans l'arc, tes consignes, je les cisaille. Comme toutes ces petites putes de marque qui disent qu'elles font pas ma taille.
Parle-moi bien,
fais ça mieux.
Mais nique-moi, pourquoi tu perds ton latin quand tu parles au mien?
Fais la pointe,
range tes points.
Y'a pas moyen,
pas moyen.
Sans dédain, 100 000 chemins, je te préviens. Parle-moi bien,
parle-moi bien,
parle-moi bien.
Fais ça mieux,
mais nique-moi, pourquoi tu perds ton latin quand tu parles au mien?
Fais la pointe,
range tes points.
Y'a pas moyen,
pas moyen.
Sans dédain, 100 000 chemins, je te préviens. Parle-moi bien.
J'ai vu ma dignité à terre, dévorée par les vers. Quand le star pervers a plaidé le viol involontaire, derrière le volet ouvert, une type se dit que c'est peut-être la faute à son père. Ces stigmates physiques, c'est pas des mots, c'est des idées. C'est eux qu'on laisse se décider. C'est pas des mots, c'est des idées. C'est eux qu'on laisse se dessiner. Y'aurait pas tant de clandestins si tu les appelais pas comme ça. Un jour, je sais très bien, vous serez tous fiers de la Roya.
Porteuse de clichés depuis la nuit des temps. Additionne mon sexe, ma couleur et ma foi. Obtient leur mépris, leur dégoût qu'ils aboient. Leur moquerie à tout va, d'en haut, d'en bas, pointé du doigt. C'est tellement facile de nous rendre invisibles, nous rendre responsables de vos erreurs nuisibles. On se réapproprie nos corps, notre histoire, nos racines. On l'ouvre bien grand, on nourrit notre estime.
Parle-moi bien,
fais ça mieux.
Mais nique-moi,
pourquoi tu perds ton latin quand tu parles au mien?
Fais la pointe,
range tes points.
Y'a pas moyen,
pas moyen.
Sans dédain, 100 000 chemins, je te préviens. Parle-moi bien,
parle-moi bien,
parle-moi bien.
Fais ça mieux,
mais nique-moi,
pourquoi tu perds ton latin quand tu parles au mien?
Fais la pointe,
range tes points.
Y'a pas moyen,
pas moyen.
Sans dédain,
100 000 chemins, je te préviens, parle-moi bien. Des bégaiements, des virgules, des accents, des regards, des silences décryptés, des gestes bavards. Point de suspension, encore plus que suspect. Tout ce que tu fais nous dira qui tu es. Micro tendu pour peine à ordure, tribune réservée pour plume de raclure. Tandis que la rue qu'on sait point de suture, elle écrit son futur à l'encre de ses blessures. Parle-moi bien, parle-moi bien, fais ça mieux, mais nique-moi. Pourquoi tu perds ton latin quand tu parles au mien? Fais la pointe, range tes points, y'a pas moyen, pas moyen. On est d'un 100 000 chemins, je te préviens, parle-moi bien, parle-moi bien, parle-moi bien, fais ça mieux, mais nique-moi. Pourquoi tu perds ton latin quand tu parles au mien? Fais la pointe, range tes points, y'a pas moyen, pas moyen. Je te préviens, parle-moi bien, parle-moi bien,
parle-moi bien,
parle-moi bien,
parle-moi bien.
Riam, Billy, Mike, 8 clos, 4 mains de plume, un strike.
Un autre grand combat, c'était quand même pendant le confinement aussi.
Oui, tout le monde a tiré le rideau, mais ça c'était général, hein, pas que les bailleurs. Le centre social, toutes les institutions, la CAF, la Sécu, enfin voilà. Les 2-3 premiers jours, on était tous tétanisés, hein, et c'est faux de dire que c'est pas vrai. Enfin, comme ils nous présentaient le truc, on allait sortir, on allait mourir sur le champ. Dehors, c'était World War Z, quoi. Il manquait plus que les pelotes de trucs dans les westerns. Et puis, un jour, deux jours, trois jours, et j'appelle la collègue, je lui dis, tu fais quoi? Elle me dit, ben, moi, je suis sur le terrain. Je suis sortie. Je dis, ben, j'arrive. Et puis, on y est allé et on était vraiment les seuls, quoi. Après, la déléguée du préfet, elle a fait un travail formidable. Sa hiérarchie lui a dit de ne pas bouger. Mais elle a continué de travailler en nous faisant passer des infos. Les institutions qu'on avait l'habitude d'aller voir, qui avaient mis en place des mails, des numéros d'urgence et tout, et qu'on ne savait pas, puisque personne sort. Donc, comment on connaît l'information? Elle nous a fait passer cette info. Et on a essayé comme ça de compenser. Et aussi, dès qu'elle avait des alertes de famille qui étaient en difficulté, eh ben, nous, on avait constitué des cagnottes entre nous, des cagnottes pour acheter des denrées alimentaires. Et en fait, on constituait des paniers où la collègue cuisinait. Et on allait voir les gens en disant... on nous a dit que... voilà. Bon, ben, on disait rien, en fait. On sonnait, puis on donnait le panier, on partait. Voilà. Et puis on disait, c'est bon, c'est livré, c'est bon, c'est livré. Et moi, j'arrivais avec ma voiture et tout. Je ne connaissais pas les gens, mais on me disait, il faut que tu ailles là, tel étage, tel bâtiment, tu donnes ça. Et on s'est organisé comme ça. C'était beau à voir. Il y a eu vraiment une solidarité. C'était les familles entre elles qui disaient, ben, on connaît cette famille, le gars, il travaillait au Black, donc il n'a plus rien. Ou bien, il travaille dans la restauration, ils n'ont plus rien, il y a des gamins, il faut y aller. Ça n'a pas été le réflexe de chacun ferme sa porte et puis on s'en fout du voisin. À plusieurs reprises, j'avais dit à mon mari d'aller, parce qu'il est commerçant, et du coup, il pouvait négocier des prix de gros et tout, aux Arnavaux et tout. Donc, il a fait le plein, il a donné, on a fait des cartons, voilà. Et après, il y a eu la Fondation de France. Alors, la Fondation de France, c'était un appel à projet simplifié. Ça s'appelait Urgence Covid 2019. Et j'y ai répondu. Avec l'aide de Karima Berich, avec l'aide d'une fille formidable, avec laquelle j'ai échangé qu'en WhatsApp. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas vu. On a fait ça à 4 mains, à 6 mains. Chacun y a mis sa touche. Et donc, on propose un projet où je mets autour de la table 4 associations qui avaient l'habitude, au cours de l'année, de faire de la distribution alimentaire. Et j'ai dit, on part sur un principe de confiance. Donnez-moi la liste des familles avec profil. Enfant, bébé, l'âge, le poids, le sexe, enfin voilà. Fille, garçon, homme, femme. Il y avait l'association Sabine à la Castellane. Il y avait Université de Bellombre. Il y avait la Banque alimentaire d'Herbel. Il y avait la Jeunesse d'Herbel. Et il y avait l'Amicale. Et on a fait un genre de consortium. On a monté le projet jour et nuit. On était là en train de... Parce qu'en plus, il y avait une date butoir. Et en fait, on a rédigé un projet qui disait, voilà, on va faire tant de paniers, on va faire 3 distributions à intervalles réguliers sur des familles qui ont été identifiées dans le besoin avec enfants, tout ça, avec un budget prévisionnel, tout, enfin, ce que ça allait coûter, ce que ça nécessitait. On a vraiment tout détaillé. J'ai passé des heures et des heures à tout étudier, à réfléchir à tout. On a envoyé ça. On a fait clink et on a attendu. Tout s'est fait par téléphone, hein, confinement. Et je reçois un coup de fil de la Fondation de France qui me dit, écoutez, vous êtes hors délai pour le dossier, c'est dommage. Mais en fait, il est tellement incroyable qu'on va vous prendre quand même. La personne qui a instruit le dossier m'a interrogée 40 minutes par téléphone en me disant pourquoi vous avez fait ça et pourquoi vous avez écrit ça. Et là, comment vous voyez les choses. Et j'ai fait mon entretien, mon oral, quoi, par téléphone. Et j'ai convaincu parce que je le connaissais sur le bout des doigts, quoi. J'avais travaillé des heures. Ils ont versé 20 000 euros. Donc on est parti, on a acheté, on a fait les listes. Ça a été une logistique, mais monstrueuse, quoi. Les véhicules personnels, j'avais des pommes de terre jusqu'au plafond de mon garage, des œufs, des oignons, du lait. Il y avait un semi-remorque à manœuvrer en bas de chez moi pour me livrer 4 palettes de lait. Enfin, j'avais des denrées périssables, donc il fallait être synchro entre l'approvisionnement et la distribution. On a servi comme ça 400 familles environ, 3 colis alimentaires, plus un colis hygiène, donc 400 x 4, voilà, c'était monstrueux. Alors, ça devait durer 4 semaines, ça a duré 4 mois presque.
Est-ce qu'en même temps, t'avais pas un peu la rage ? Est-ce que c'était à vous, en fait, de faire ça ?
Eh bien, alors, je me suis même pas posé la question. J'ai dit, il faut le faire, je le fais. Il y a la mairie de secteur, hein, faut dire les choses, qui avait mis à disposition des denrées. Ils en ont distribué via une association sur Herbel. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Il y a aussi la métropole qui, au bout de 2-3 semaines, ils ont réussi à négocier avec des maraîchers des fruits et légumes. Mais du coup, ils ne savaient pas qui les donner. Donc, ils nous appellent en disant « Vous pouvez nous donner les familles qui sont dans le besoin ?» On a monté des listes, on a organisé les distributions. Ils ont donné des tickets resto aussi. Mais voilà, toujours avec nous comme lien. Ils avaient besoin de cette expertise de terrain et d'usage pour savoir à qui donner et pour être efficace. Et nous, on a été là. Et ça, j'ai poussé un coup de gueule à une réunion de la métropole en disant, nous, on fait des pieds et des mains pour monter des dossiers pour avoir 20 000 balles. D'autres institutions dont je tairai le nom se prennent des subventions à 6 chiffres qui n'étaient pas là. Et en fait, qui on a retrouvé au bout du compte sur le terrain, c'était nous. Donc, un peu plus de considération. Et quand on sait que moi je travaille dans un local de 12 mètres carrés, je vous dis pas merci parce que j'ai pas été aidée. Ce local, c'est un local à vélo, donc qui n'est pas du tout aux normes, et qui, à la rigueur, je suis dans l'illégalité en l'occupant, parce qu'il ne respecte rien. Il y a des interrupteurs, des prises de lumière et 4 murs. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de sanitaire.
Il n'y a pas de fenêtre.
Et il fait 5 sur 4.
Une petite plante verte qui n'a pas l'air de se porter si mal, finalement, ou elle est en plastique?
Non, elle est en plastique, parce qu'elle aurait crevé depuis longtemps.
Parce que je me disais, mais c'est incroyable.
Non, c'est du plastique.
Cette plante pousse. Hein.
Non, ça ne pousse pas, parce qu'il n'y a pas d'air.
Et il est au rez-de-chaussée, donc au rez-de-chaussée de la tour numéro 4.
Voilà, c'est ça, en face des boîtes aux lettres. Donc, en fait, initialement, je pense que c'était prévu pour mettre les poussettes et les vélos. Je ne suis pas la seule sur Herbel à demander un local, sachant qu'il y a un plan de rénovation urbaine qui arrive. C'est un gros projet de réhabilitation du quartier. Et du coup, il va y avoir des démolitions. Et ces démolitions, manque de peau, elles vont concerner des locaux associatifs déjà existants. Et du coup, ces associations qui vont perdre leurs locaux, il faut les reloger. Donc moi, on m'a dit, t'es pas la seule. Et du coup, va falloir un peu patienter. Encore 25 ans, mais il faut encore patienter. Suite au confinement, j'ai proposé ce projet de conciergerie à la Fondation de France. On a vu les gens vraiment se retrousser les manches et s'entraider. Donc on a eu des filles qui ont cuisiné, on a eu des filles qui ont cousu des masques, on a eu des gens qui sont improvisés gestionnaires, à faire des cagnottes, à faire des achats, à faire de la veille entre habitants. Et du coup, on s'est dit, mais mince, il y a plein de compétences en fait qu'on pourrait exploiter et qu'on pourrait mettre en avant. et pourquoi pas en faire profiter les habitants. C'est le principe du par et pour, c'est-à-dire par les habitants, pour les habitants. Ça peut être fait une partie sur la base du bénévolat, mais ça peut aussi être une manière de professionnaliser des gens qui ont des compétences et qui ne sont pas forcément conscients d'avoir ces compétences. On pourrait leur donner l'idée de se professionnaliser en montant un service de retouche de couture ou de service traiteur ou de soins à domicile. On est en pourparlers avec la Poste pour faire un point relais colis. Ça sera une des premières activités phares de la conciergerie pour permettre aux habitants d'Herbel qui n'étaient plus livrés depuis plus de 10 ans en colis de pouvoir récupérer leur colis sur site. Et la deuxième activité phare, c'est un point relais numérique. C'est la continuité de ce qu'on fait déjà en itinérance. Du coup, d'avoir un lieu dédié pour que les personnes viennent faire leurs démarches administratives dématérialisées, parce que c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup, beaucoup sollicité. Depuis qu'en plus, toutes les administrations ont des portails numériques où il faut faire toutes les démarches. Les gens, ils sont paumés, ils ne sont pas équipés, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils perdent leurs droits, les CMU, les pointages de primes d'activité, impôts, espace Amélie, enfin voilà, les RSA, la CAF, tout. Quoi. Donc on s'est dit, on va faire un lieu où les gens seront accueillis comme il faut, où on travaillera comme il faut. Et puis si on peut faire un peu de formation aussi numérique pour expliquer aux gens comment faire une demande de CMU par mail ou une demande de logement par mail ou comment avoir sa boîte mail, mettre une pièce jointe à un mail. Et puis, il y a plein d'autres pistes. On aimerait être la vitrine de tous les commerçants, enfin les gens qui ont des activités, prestations de services ou de vente de biens sur Herbel. C'est 6000 habitants, donc c'est une clientèle potentielle pour ces gens-là. Et on aimerait qu'ils aient de la visibilité via la conciergerie. Et je pense que c'est ce projet de conciergerie qui est activé qu'on nous passe un appartement. Donc c'est provisoire, 52 mètres carrés, c'est un T2. On prend quand même, ne serait-ce que pour les sanitaires et le point d'eau, pour se faire un café et se poser et travailler un peu dignement. Et au chaud surtout, parce que là on se gèle. En attendant que des vrais locaux adaptés, plus grands, nous soient confiés. Et pareil, là c'est pas gagné. En faisant mes visites à domicile, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec les gens. Comme je dis, je rentre pour aider, pour faire une déclaration de dégâts des eaux et je finis à boire le café et les gens me racontent leur vie. Et voilà. Mais j'ai trouvé beaucoup de gens qui se gâchaient, qui avaient beaucoup de choses à offrir et à montrer et à exploiter et où ils pouvaient s'épanouir, mais ils ne savaient pas comment. Parce qu'on leur a dit, toi, tu restes à ta place, quoi. Ça, je l'ai beaucoup, beaucoup ressenti. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand une femme à Herbel veut bosser, on la met que sur des ménages ou assistantes de vie, alors que c'est des nanas dans leur pays, elles ont fait des tas de trucs. Rien que vous rentrez chez eux, vous comprenez. Et j'ai dit, non, il faut leur dire, en tout cas pour celles qui veulent, qu'un autre choix est possible et on va les aider. Les qualités, elles les ont. Il faut juste un peu leur donner cette petite tape dans le dos qui va leur permettre de vraiment passer à autre chose. Et du coup, les pépites, c'est né de ça. On a fait une information où on a dit aux filles, est-ce que ça vous dirait de reprendre du travail, mais que vous aurez choisi? Pas le truc où on vous colle, tu veux taffer, il y a des ménages, il y a ceci, il y a cela. Venez, on va réfléchir à un projet en faisant le tri de ce que vous aimez, de ce que vous pouvez, de ce que votre rythme, ce que vous pouvez faire, pas faire, ce que vous aimez. La première réunion, il y a eu 22 filles qui sont venues. De tout, hein. Comorien, arménien, tchétchène, algérien, français, espagnol, italien, enfin tout, syrien. Au début, elles avaient honte de leur accent, elles se disaient non mais je parle pas parce que moi ils vont se moquer de mon accent parce que je sais pas parler français et tout. Et en fait, on a une super animatrice qui a mis tout le monde à l'aise et après, il y avait des éclats de rire. Malgré les différences, on s'est retrouvés sur des problèmes de femmes, des problèmes de cité, des problèmes. Et c'est là où on s'est dit, finalement, je ne suis pas toute seule. Ça donne une confiance et une assurance. Dans les 13 nanas que j'ai vues, toutes, sans exception, non, mais tu comprends, mais ça, je ne peux pas. Ah, mais ça, je ne sais pas si je saurais le faire. Non, mais ça, je ne demande pas ça, je ne veux que ça. Mais des fois, c'est même physique. La manière de s'asseoir, de se tenir, elles se mettent au bout de la table, elles se prennent le bout de la chaise. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dénigré. C'est ça qu'il faut détricoter.
Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire.
J'ai bossé pendant plus de 4 ans en tant que bénévole. Et j'y ai mis mes tripes. Hein. Mon temps, ma vie de famille, ma santé. Ça m'a coûté 3 hospitalisations en urgence. Ah. J'ai dit stop. Donc j'ai dit, maintenant il faut que je sois rémunérée ou c'est pas la peine. Et puis le message a été entendu. Après, c'est pas une fleur qu'on m'a fait, hein, parce que je ménage pas ma peine. Et les résultats, on les voit. Hein. C'est pas un coup de peinture qu'on a réussi à obtenir ou un arbre planté. C'est vraiment de la monnaie sonnante et trébuchante. Quand on a réussi à récupérer des charges, quand on a réussi à ne pas faire payer pendant 33 mois l'eau chaude à 1200 familles, plus l'année d'après, on a fait rembourser le chauffage, une partie. Le procès, il est là. C'est des résultats concrets. Ils les voient sur les avis d'échéance, les gens. Avec la collègue, si on avait bossé dans une boîte privée, je pense qu'on aurait eu un sacré 13e mois, parce qu'il y a plus d'un million d'euros quand même qu'on a ramassé pour les habitants. Voilà, après, je ne gagne pas des milliers et des cents. Hein. Quand j'arrive à caler des personnes sur des emplois, ben voilà, c'est un chômeur de moins, grâce à ma mise en contact. Il y a des boîtes qui se font rémunérer pour ça. Hein. Quand j'arrive à désamorcer un litige, ben, ça évite que ça explose, ça évite peut-être un arrêt maladie qui va coûter des sous. Et tout ça, c'est pas chiffrable. Et ça, les gens, quand ils n'arrivent pas à mettre un prix sur quelque chose, et ben, ce que vous faites, ça n'existe pas. Quand vous évitez à des gens de péter les plombs parce qu'ils sont face à une administration, qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre et que vous dites là, ben écoute, tu n'arrives pas à faire ton dossier logement parce que tes impôts ne sont pas à jour. Donc donne, je vais te faire ton dossier des impôts à jour et on va faire un courrier, on va faire ce qu'il faut. Et quand elle revoit son avis d'imposition qui est à jour et du coup qu'elle peut faire sa démarche derrière et que ça peut lui débloquer, ben ouais, ça évite que la femme, elle vrille quoi. Parce que ils lui ont coupé ses droits, parce que voilà. Quand on voit des gens pour qui il faut juste faire un petit truc comme ça, pour qu'ils arrivent à sortir de l'eau, et que ce petit dernier mètre, enfin ce dernier petit centimètre n'est pas fait, et que c'est comme si vous voyez quelqu'un qui se noie, et vous avez la bouée à côté de vous, et moi, pour moi, c'est un devoir. On ne nous demande pas de plonger dans l'eau avec lui, on nous demande juste de jeter la bouée. J'ai eu des gens dans ma vie, surtout dans mon enfance, parce qu'heureusement, après, plus j'ai grandi, plus ça allait mieux, mais on a passé des moments très difficiles. Et quand vous voyez que vous êtes dans la mouise jusqu'au cou, vous, votre maman, vos frères et sœurs, et que c'est assez compliqué, quand vous voyez une personne qui s'arrête et qui vous tend la main, c'est, vous vous en souvenez, quoi.
Ben oui.
Et ça vous marque et vous dites, ben, moi aussi, je voudrais faire la même chose plus tard. Pour apporter ce réconfort qu'on a eu.
Et n'oubliez pas qu'on aime notre quartier. On l'aime, ce quartier. Mais par contre, il y aura peut-être des gens qui voudront rester dans Herbel, mais ils ne pourront pas les reloger. Ils ne pourront pas. D'accord ? Et nous, on est, malgré que j'appelle ce quartier, c'est zoo. Pourquoi ? Et nous, on est les animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé notre quartier à l'abandon.
Vous le voyez ? Regardez autour de vous.
Et on paye des charges. On paye des loyers. On a droit à être logé dignement et ne pas avoir un loyer plus cher, ne signer rien, n'accepter rien.
Et pour les personnes qui ont des loyers en retard, on peut faire des échéanciers, n'ayez pas honte. Tout le monde a des retards de loyer, tout le monde a des dettes. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser écraser. Ok ? Une dignité. La dignité, vous connaissez ? C'est nous. Alors stop !
Les tours ne vont pas bouger, enfin, dernière nouvelle. Ils vont détruire plusieurs bâtiments pour aérer le quartier, pour le désenclaver. Ils vont construire un grand parc, mettre en place un jardin partagé. Ils vont faire des grosses réhabilitations sur le bâti. isoler les bâtiments. Ils vont rénover les appartements, restructurer certains grands logements pour en faire des logements plus petits afin de permettre la mixité sociale et avoir des profils de familles autres que familles nombreuses. Ils vont faire deux routes transversales qui vont couper le quartier. Ils vont faire une maison pour tous. Ils vont rénover l'école du quartier aussi. Ils vont faire des constructions à l'accession à la propriété. Ils ont pour projet d'installer des commerces. Mais tout ça, à une échéance de 10 à 20 ans, ils vont aussi prévoir de créer un tiers-lieu, un lieu muséal, parce que Herbel a une histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Villa Herbel, qui a été détruite aujourd'hui, mais qui était dans les hauteurs du quartier, a abrité des artistes juifs qui ont été exfiltrés vers les États-Unis par Varian Fry, qui était un agent américain. Sur Herbel, je pense qu'il y a une continuité de fraternité et d'humanité qu'il faut vraiment reprendre avec cet esprit de Varian Fry. Voilà, moi je fais vraiment un parallèle avec cette mixité qui représente une richesse sur Herbel et que certains voient comme une menace.
Oui, voilà. Et toi, tu en dis quoi du programme de rénovation urbaine? T'en penses quoi?
Alors, c'est quitte ou double. Si c'est bien fait, ça peut être une très très belle réussite. Mais pas que je suis inquiète, mais il va falloir être vachement, vachement vigilante. Et tous, hein, il faut vraiment que les habitants s'impliquent. Parce que si c'est fait sans eux, c'est fait contre eux. Il y a une concertation qui est obligatoire. Il faut vraiment profiter pour donner son avis et orienter justement les choix de toutes ces transformations. Ça peut être vraiment une belle réussite parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être injecté. 180 millions d'euros, c'est pas rien. Mais il faut juste que ce soit bien utilisé et que préalablement, on réfléchisse bien aux besoins. Aux besoins des habitants, aux besoins du site, du quartier. Et pas que ce soit encore un énième calcul politique qui va correspondre à rien du tout, qu'à satisfaire des gens qui ne sont pas concernés.
Merci aux représentants des collectifs, à tous les collectifs qui ont signé la pétition et qui nous ont soutenus. Le fait qu'on soit là, c'est déjà une victoire. Nous, notre revendication, c'est qu'il n'y a pas de plan de rénovation urbaine s'il n'y a pas de charte de relogement signée. La charte de relogement, c'est quoi? C'est une liste de conditions qui va permettre de donner des garanties aux personnes qui vont être délogées pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Le plan de rénovation urbaine, il va prévoir des démolitions de bâtiments, des restructurations. En tout, il y a 300 familles qui vont devoir être délogées. Nous, ce qu'on veut, c'est que les relogements considèrent ces familles et respectent leurs droits. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'os de loyer, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis plus de 40 ans. Quand ils vont devoir partir, ils vont perdre leur ancienneté et ils vont probablement payer plus cher. Ou sinon, on ne veut pas non plus qu'ils soient mis dans des autres quartiers qui n'auront pas choisi. Nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est des familles qui vont être déracinées. Et c'est des familles qui n'ont jamais rien demandé, qui étaient tranquilles, et du jour au lendemain, on leur dit « il faut partir, parce qu'on va casser votre bâtiment ». Nous, on veut qu'il n'ait pas à payer un euro de plus.
On va aller à tour de rôle. Moi, je rajouterai que s'il n'y a pas de charte signée, il n'y aura pas de relogement. Et ça, il faut y être tous ensemble, parce que là, on va aller quelque part où ça va être très difficile pour tout le monde. Il n'y aura aucun respect, comme on a eu jusqu'à aujourd'hui, qui viennent chez nous, sans rendez-vous, ils tapent, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Alors la charte, si elle n'est pas signée, on bloque tout. Ok? Tous ensemble. Voilà. La dignité, vous connaissez? C'est nous.
Une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Épisode 1, l'amicale des locataires d'Herbel, un entretien avec Rania Ougassi. Et grand merci à Erika, Ida et Audrey, à la conciergerie. Merci à Jamila, ainsi qu'à toutes les participantes et participants de la réunion publique du quartier d'Herbel. Prise de son, Fatima Sissani. Montage, Fatima Sissani et Rinka. Mixage, Rinka.